Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 31 mai. 31 mai, les amis, déjà, 2018.
Oui, et surtout que demain, c'est le mois de juin.
Oui, Monique Kerouac à l'animation, en compagnie de Marie Lalande et Yvan Desrosiers.
Des Lauriers,
pardon.
On fait dans les fleurs.
C'est le décalage horaire, excusez-moi. Ainsi que, bien sûr, la mise en onde et aux choix musicaux. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous avez préparé pour nos auditeurs aujourd'hui, Marie?
Alors moi, je vous parle d'un groupe, en fait, c'est un groupe musical qui offre des concerts pour intéresser les jeunes aux sciences, dans un premier temps.
Ah.
Et dans un autre...
Qu'est-ce que c'est original?
Oui, c'est très, très intéressant. Puis c'est maintenant, au Québec.
On parle de
maintenant.
Quelle science, là?
Les sciences. Les sciences
fondamentales.
Des sons, notamment. Ouais. Et dans un deuxième temps, je vous parle d'une trousse pédagogique, une trousse ludique qu'on peut utiliser dans les corridors d'école pour faire bouger les enfants pendant les déplacements.
Oh là là!
Oui, c'est intéressant.
Je pensais qu'on les voulait sages, mais bon. Oui. Yvan, de votre côté?
De mon côté, il fait beau.
Ah oui!
Alors, on parle vélo.
Ah!
Et dans un premier temps, je vous suggère une dizaine d'endroits où aller rouler sans vous soucier des nids de poules. Et donc, c'est à l'extérieur de Montréal. Et le deuxième deuxième intervention, c'est deux amis qui ont décidé d'aller faire un tour à vélo.
Oui, un petit tour.
Un petit tour.
Alors, de mon côté, j'irai avec un premier thème qui est autour des arts, alors qui touche un peu l'univers que Marie nous présente. Et en seconde partie, ben, je parlerai des arbres, plus spécifiquement de l'influence de la lune. Est-ce qu'il y a vraiment influence? Est-ce qu'ils sont éternels et est-ce qu'ils dorment, les arbres?
Est-ce qu'ils dorment? C'est une bonne question.
Alors voilà, c'est parti! Alors Marie.
Oui, ce groupe.
Un concert associé aux sciences.
Oui, c'était donc...
Nous sommes très curieux.
Un texte de Marc-Antoine Boudreau, publié sur le site du Réseau d'information sur la réussite éducative, le RIRE, R-I-R-E, le 28 mai, donc c'est tout récent. En 2015, le média électronique Actualité UQAM publiait un article qui soulignait une baisse d'intérêt marquée des élèves du secondaire pour les sciences et la technologie. Pour contrer cette tendance, plusieurs organismes ou ressources existent déjà. Par exemple, la Boîte à sciences ou le Centre de démonstration en sciences physiques, le CSDP, et, peut-être plus connu, à tout le moins des parents, le magazine Les Débrouillards.
Ben oui. Mm-hmm.
Et toutes ces organisations offrent divers services, contenus ou publications pour piquer la curiosité des jeunes et les intéresser aux sciences. Très bientôt, en fait c'est maintenant, un nouveau groupe participe à cette mission de rayonnement des sciences dans les écoles du Québec. Et c'est un quintet, le quintet Ophonius, O-P-H-O-N-I-U-S. Composé des musiciens professionnels Olivier Battle, Jean-Marc Dormeau, Fabien Ecker, Christophe Ayrault et Bruno Gazengel, j'espère que je n'écorche pas trop leur nom de famille, le quintet Jazz et Sciences Ophonius propose des concerts scientifiques. Deux de ces musiciens, Aero et Gazengel, sont aussi des enseignants-chercheurs de l'Université du Mans en France. L'objectif de leurs concerts scientifiques est de vulgariser les connaissances scientifiques, et ça c'est la réponse à ta question, Yvan, les connaissances scientifiques donc relatives à l'acoustique et à la musique.
Mm-hmm.
Ceci pour rejoindre non seulement les élèves du troisième cycle du primaire, mm-hmm. donc ce sont les élèves de cinquième et sixième année, et jusqu'au cégep, mais aussi toutes les personnes intéressées par les sciences ou la musique. Quelques-unes des notions approfondies par le quintet Ophonius, d'abord la physique des instruments, les notions liées aux résonateurs, aux cordes, aux tuyaux et aux phénomènes générateurs de sons. Et aussi la physique du son, c'est-à-dire les notions liées à l'intensité, à la hauteur, au timbre et aux harmoniques. Comment font-ils ou quel est leur modus operandi? Quelles sont les retombées? Les membres du quintet rendent visible et accessible la physique de la musique en associant la perception des phénomènes sonores, les démonstrations en temps réel et les notions théoriques. Bien qu'elles n'aient pas été mesurées de façon objective, les retombées positives de leurs concerts sont nombreuses. Nommons la sensibilisation aux risques auditifs, l'augmentation,
c'est très important
pour les jeunes, même s'ils ne savent pas, deuxièmement, l'augmentation de l'intérêt des élèves pour les sciences, le soutien à la compréhension des notions du programme de formation de l'École québécoise, la création de matériel pédagogique, de partenariats et d'un cours en ligne. On appelle ça, comment vous prononcez ça, les MOOC, pour Massive Open Online Courses sur l'acoustique. Donc, la présence au sein de ce projet de deux enseignants-chercheurs issus d'un des plus importants laboratoires d'acoustique de France, on parle du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, apporte l'expertise et la pédagogie nécessaires à la diffusion des connaissances scientifiques dans le domaine de l'acoustique vers le grand public. En partenariat avec divers organismes, les enseignants-chercheurs du groupe Ophonius et d'autres membres du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans ont participé à plusieurs autres projets pour faire rayonner les sciences, dont le projet Mérite. Alors, je vous en parle un petit peu du projet Mérite. C'est un projet qui comporte deux grands axes, le premier pour les élèves, le second pour les enseignants. Grâce au projet Mérite, les enseignants en sciences bénéficient de plusieurs formations et outils. Ceux-ci leur permettent, entre autres, de faire vivre à leurs élèves des expériences liées à la culture industrielle, c'est-à-dire au monde de l'entreprise, à l'organisation du travail dans l'industrie. Parmi les ressources conçues pour les élèves se trouvent des mallettes technologiques composées des progressions pédagogiques, du matériel associé et de toute la documentation nécessaire à la réalisation d'activités d'expérimentation technologique. Elles permettent aux élèves de se familiariser avec des domaines aussi diversifiés que la chimie, la robotique, l'énergie, l'alimentation, l'informatique ou la science des matériaux. Puis aussi, donc, la physique des sons pour le groupe Ophonius. Le deuxième axe du projet, c'est très, très large, oui. Le deuxième axe de ce projet Mérite vise le développement professionnel des enseignants du secondaire et du cégep au Québec. C'est les niveaux associés au collège et au lycée en France. Il offre 4 cours de formation qui permettent notamment aux enseignants de mieux connaître la culture industrielle et de découvrir l'organisation du travail dans l'industrie. D'autres contenus pédagogiques se trouvent sur le site web du consortium Le Mans Acoustique. Alors là, ici, je vais dégonfler votre ballon parce que le groupe Ophonius est ou était au Québec du 19 mai jusqu'au 31 mai.
Ah, c'est aujourd'hui.
Et c'est aujourd'hui.
Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui?
Ils sont dans le coin de Sherbrooke et de Granby. Aujourd'hui, ils sont peut-être à l'aéroport, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils repartaient. Leur séjour se terminait aujourd'hui. Ah. Mais je trouvais ça intéressant de faire connaître cette expérience-là parce que donc c'est passé et les étudiants, notamment dans le coin de Granby, Sherbrooke, en ont profité.
Ce serait bien que des orchestres ou des groupes quatuors, quintettes québécois s'intéressent à,
ça.
C'est vraiment très intéressant.
Oui, merci.
Alors Yvan, sans nid de poule, faire du vélo, mais ça nous demande quand même une certaine agilité.
Oui, mais c'est des belles randonnées.
D'accord.
Puis certaines randonnées dont je vais parler sont relativement faciles, d'autres un peu plus exigeantes, c'est un fait. C'est 10 itinéraires cyclables sans nid de poule. C'est sous la plume d'Antoine Stab dans le site du magazine Espace du 28 mai, tout récent, hier, avant-hier. Ça commence par presque chez nous, en fait, parce que j'ai demeuré dans ce coin-là. Les promenades de la Gatineau, le parc de la Gatineau dans l'Outaouais. C'est un classique cycliste au Québec. Certainement l'un des plus beaux endroits pour le vélo dans la belle province. Le point de départ de cette boucle se fait au centre des visiteurs du parc de la Gatineau, à Chelsea, et permet de rouler sur les promenades de la Gatineau, du lac Fortune et promenade Champlain. Wow. Et le Belvédère Champlain, il est de toute beauté. Mais attention.
Mais c'est un belvédère.
Oui, c'est un belvédère, c'est ça.
Donc, élevé.
Là, on a toutes les mains
j'ai levé
vers,
la main, là,
vers le haut, là.
Monter.
Ça veut dire monter plus haut, monter plus haut.
Oui, ça n'a rien d'une promenade de santé. Voilà. Si la chaussée est de bonne qualité et fermée à la circulation automobile les dimanches, on l'a essayé
nous
il n'y a pas longtemps.
C'est vrai.
Pas à cet endroit-là précis, mais dans le coin. Le parcours est souvent coûteux, avis aux amateurs. La boucle est de 34 km quand même. Le dénivelé est de 290 mètres, mais j'ai l'impression qu'il est tout d'un coup. Ensuite, on va à Saint-Donat. On est allés, Marie et moi, l'année passée. Le tour des deux lacs Saint-Donat dans la Naudière. Ce parcours sinueux et vallonné est très prisé dans la région. Bon nombre de cyclistes sont séduits par les beaux points de vue et l'environnement naturel préservé autour des lacs Archambault et Waro à Saint-Donat. Pour ceux qui voudraient s'offrir une plus courte sortie, il est possible de faire le tour que d'un seul des deux plans d'eau. La distance totale, c'est 64,5, donc on peut diviser par deux. Et le dénivelé, quand même, 604 mètres. Hein, fait que c'est d'intermédiaire à difficile. Il y a des bouts
plus... Oui, moi, j'ai décidé de virer de bord devant la première grande côte.
Ah, mais c'est parce que tu penses à d'autres choses dans ce coin-là.
Ah, c'est pas la même chose. D'accord.
Troisième, la seigneurie d'Argenteuil dans les Laurentides. Au départ de Saint-André d'Argenteuil, cette boucle de 42 km vous fera rouler en direction de Carillon, longer la rivière des Outaouais, puis vous amènera vers la chute à l'intérieur des terres, avant un retour tout en douceur vers le point de départ. Au menu, village pittoresque, plaine agricole, rivière sinueuse et quelques points de vue panoramiques intéressants. La qualité du revêtement est parmi l'un des meilleurs de la région pour le vélo et c'est de niveau facile.
Bon, c'est parfait.
Alors, on a pris note, Maria.
Oui, oui. Okay.
On peut aller aussi à Montérégie, ça c'est plus facile encore. Aujourd'hui, partie intégrante de la route verte 1 et du sentier transcanadien, l'Estriade est une ancienne voie ferrée désaffectée, transformée en piste multifonctionnelle au début des années 90. La dénivellation y est donc minime, elle ne dépasse jamais plus de 2% et elle conviendra parfaitement aux balades en famille. Tout au long du parcours, on peut même admirer de nombreuses sculptures monumentales réalisées par des artistes internationaux. C'est sur 21 km, 42 aller-retour, entre Granby et Waterloo. Ensuite, on s'en va à Saint-Benoît-du-Lac dans les cantons de l'Est.
Au Palais.
Oui, ici.
Pour connaître très bien cette région.
C'est intermédiaire, c'est un peu plus exigeant. Cette boucle d'environ 70 km offre de beaux points de vue, mais il faut se rendre, sur le lac Menfré-Magog. Depuis Magog, emprunter d'abord la route 112 vers l'ouest, puis le chemin des Pères vers Austin ou Austin, je ne sais pas, et Saint-Benoît-du-Lac. Même si le revêtement n'est pas parfait entre ces deux municipalités, faites tout de même un crochet pour admirer l'abbaye. Oui. Le retour s'effectue sur la route Nicolas-Austin jusqu'à Bolton-Est, puis sur la 245 jusqu'à Eastman et enfin sur la 112 le long du parc du mont Orford.
C'est magnifique avec le lac Menfré-Magog et puis
Orford. Tout à fait superbe. Un autre coin superbe, c'est la région de Québec. Ça s'appelle la véloroute Marie-Hélène Prémont. Nommée en l'honneur de l'ancienne championne de vélo de montagne, cette véloroute est en quelque sorte une excursion cycliste à travers le temps. Elle traverse certains des premiers villages de l'Amérique française sur l'une des plus belles vieilles artères du Québec, la route de la Nouvelle-France. Pas d'inquiétude, la qualité de l'asphalte est quand même au rendez-vous. Tout au long de cette véloroute qui relie le parc de la Chute-Montmorency à Sainte-Anne-de-Beaupré, une boucle secondaire entre Saint-Joachim et Cap-Tourmente permet d'ajouter 10 km à l'itinéraire puis d'aller voir des oiseaux à certains moments donnés de l'année.
Oui.
Ensuite, on s'en va dans le coin de Bellechasse-Chaudière-Appalaches. Aménagée sur deux anciens chemins de fer, cette piste cyclable sillonne 8 villages pittoresques de Bellechasse. Je vous les nomme pas tous. Une sortie de 74 km sans réelle difficulté pour ceux qui veulent se retrouver au calme à travers des paysages agricoles et forestiers. Ensuite, on va au lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a une piste qui s'appelle le Petit Témis, mais c'est pas ça.
D'accord.
C'est pas ça. L'itinéraire en forme de Y est formé de deux routes reliant trois des quatre centres de services du parc, ceux de Lance à William, du Petit Lac Touladi et du Grand Lac Touladi. Le parcours de 26
km,
je l'ai dit, le parcours de 26 km intégralement situé dans le parc est sinueux et comporte du relief et il constitue un beau défi malgré sa courte distance. Si la route est partagée avec les automobiles, elle demeure toutefois peu achalandée. Il est possible d'accéder au parc avec son vélo depuis la municipalité de Cabanneau grâce à une navette maritime qui traverse le lac Témiscouata. On s'en va en Gaspésie. Ça aussi, c'est beau.
Oui.
C'est difficile.
Oui.
Ça, c'est le niveau difficile. C'est le seul de la liste de 10 qui est difficile. Si cette boucle ne compte que 34 km, sa difficulté tient surtout à son dénivelé. Au départ de Percé, la route sinueuse est rarement plate, n'offre que peu de répit aux cyclistes. En fin de parcours, une montée de 4,2 km vous achèvera. La récompense est toutefois à la hauteur des efforts.
On reste sur le bord de l'eau.
On prend la voiture.
La récompense est toutefois à la hauteur des efforts, le paysage grandiose du littoral et surtout le célèbre rocher Percé. Et il faut redescendre, hein? Et la dixième, c'est Horst de Kenogami, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Horst, c'est des strates dénivelées dans un massif rocheux. Je vais aller lire
merci.
Ça. Situé entre Métabetchouane et la ville de Saguenay, arrondissement de Jonquière, cette piste cyclable permet de rouler à travers une grande variété de paysages. Une très belle balade à vélo sur une route peu fréquentée, légèrement vallonnée, avec quelques pentes raides, mais facilement accessible pour les cyclistes les plus modestes. Le parcours se termine avec une traverse maritime entre Jonquière et Chipcha sur la rivière Saguenay. Alors, il y a des belles randonnées à faire partout au Québec, puis d'autres que je n'ai pas nommées aussi, du côté de la Montérégie, entre autres, autour de la rivière Richelieu, etc.
Et tu nous rappelles la source?
Oui, c'est vrai que faut que je fasse ça. C'est sur le site du magazine Espace.
Okay.
C'est sous la plume d'Antoine Stab, le 28 mai.
Merci beaucoup.
Merci.
Prête-moi ton regard pour quelques pas de danse, quelques espoirs, quelques fois s'écartent, se jouent et s'oublient en quelques pas. Prête-moi ton regard. Je me suis trompé encore, une fois de plus, une fois de trop. T'as raison et j'ai tort. Je me suis trompé encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'accuse, on s'ignore. Non, non, prête-moi ton regard.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Si je savais ce qui nous sépare. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Je me suis trompé encore. Prête-moi ta plume, griffonne-moi, griffonne-moi de mon gras, de beaux barbeaux ou de barbeaux bêtes, mais griffonne-moi. Et je tombe encore, sans mise en scène, sans remords et sans regret. Oh, je tombe encore, je m'abandonne, je me défais de moi. Si tu me prêtes ton regard.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Si je savais ce qui nous sépare. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night.
Malgré les revers, malgré la peur, malgré les rêves ébréchés, je te poursuis, te poursuivrai. Au bout du compte, sans garde-fou, je pourrais me laisser glisser et je pourrais brûler.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night.
far. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Ooh, ton regard, prête pour ton regard. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Si je savais ce qui nous sépare.
C'est une chanson de 1990, Jim Corcoran, qui nous chantait « Prête-moi ton regard ».
Ah, merci. Alors, ça, c'est une belle introduction à un des deux articles que je vais maintenant vous lire.
Il fait toujours des belles introductions.
Oui, on est tellement chanceux d'avoir un Mathieu avec nous. Alors, c'est un article de Mathieu Robert Sauvé pour le journal Forum de l'UdeM du 11 mai dernier qui s'intitule « Une étudiante permet à des non-voyants de voir des tableaux.
Mmh.
Alors, amener des non-voyants à voir des tableaux, non seulement leurs motifs, mais aussi leurs couleurs. C'est le défi incroyable que s'est lancé Patricia Bérubé dans ses travaux de maîtrise en histoire de l'art. Et à en croire Jean-Daniel Aubin, l'un des 9 participants à sa recherche, elle a en partie réussi.
Okay.
Ça a été, alors je cite M. Aubin, « Ça a été une grande émotion de réaliser que je pouvais de nouveau apprécier la beauté d'une œuvre. » Témoigne dans une vidéo cet amateur d'art visuel qui a perdu la vue en 2012 à la suite d'une maladie.
Mmh.
Les grands musées du monde tentent de plus en plus de mettre leurs collections à la portée des clientèles atypiques et la peinture représente pour eux un défi particulier en raison de sa bidimensionnalité et de la place prépondérante accordée à la couleur. Donc, on ne peut pas permettre la manipulation d'œuvres picturales comme on pourrait le faire avec la sculpture, par exemple. Donc, c'est en transposant sur un canevas en relief une huile d'Alfred Pellan ayant servi à la bannière de l'exposition Prisme Dieu qu'elle a permis à M. Aubin de voir l'œuvre. Les motifs géométriques, triangles, rectangles, cercles et losanges, sont reproduits à l'identique sur une plaque que l'homme découvre avec le bout de ses doigts. Et à chaque couleur correspond une texture particulière, répertoriée à l'aide d'une légende tactile. On oublie qu'on ne voit plus, qu'on est aveugle, lance M. Aubin, dans la vidéo tournée à l'occasion du concours du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. J'ai une histoire à raconter. Alors, si l'impression en 3 dimensions peut sembler une aventure prometteuse pour donner du relief à un tableau, Madame Bérubé ne l'a pas retenue à cette fin précise. Le résultat n'était pas concluant car les couches successives étaient perceptibles aux doigts d'experts. Nous avons plutôt choisi de recourir à cette technologie pour créer les moules dans lesquels serait coulé du silicone rigide. J'ai ensuite amélioré les prototypes à la lumière des commentaires des participants de mon groupe de discussion. Ce travail a conduit à 2 prototypes distincts. Le premier présente les formes, le deuxième, les couleurs, au lieu de l'avoir sur une même surface.
Ouais.
Même s'il existe des caractères de l'alphabet braille pour les différentes couleurs, cet élément devait être repensé pour un usage en médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est l'interaction entre les créateurs et les artistes. Les participants, pardon.
Oui, c'est ça.
C'est Mathieu, il m'a distrait avec ses 4 minutes. Les textures ont été choisies avec l'aide des participants en fonction des couleurs, unies pour le blanc, relevées pour le rouge, etc. Peut-on traduire toutes les œuvres en surface tactile, a demandé un auditeur à la conférencière. Probablement, « pas dans les conditions actuelles », a répondu Mme Bérubé, qui se réjouit tout de même de voir les musées lancer des initiatives allant dans ce sens. La Joconde de Léonard de Vinci a été reproduite en trois dimensions, mais aucune solution n'est proposée pour la couleur. Madame Bérubé a levé le voile sur un élément inattendu relatif à la couleur. Les résultats préliminaires de cette étude nous ont permis de relever une piste intéressante qui mériterait qu'on s'y attarde davantage, à savoir que les participants tendent à associer chaque couleur à la charge émotive qui y est traditionnellement liée dans notre culture nord-américaine. Intéressée depuis longtemps par la couleur en art, elle souhaitait en apprendre davantage sur Eugène Delacroix, mais elle trouvait cette étude peu utile socialement. Elle a donc trouvé ce projet de recherche à la jonction de l'histoire de l'art et de la muséologie.
C'est alors, formidable.
On lui souhaite un bon développement pour le restant de sa recherche. C'était donc un article pour le journal Forum de l'UdeM du 11 mai dernier, rédigé par Mathieu Robert Sauvé. Alors, le second article que j'aimerais vous lire, alors, il s'intitule « Comment sait-on que la dame à l'hermine n'en avait pas ?» C'est un tableau de Léonard de Vinci et l'article a été rédigé par Muriel Calin, pardon, K-A-L-I-N, pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018. Alors, Léonard de Vinci, vers 1490, entreprit de peindre sa célèbre dame à l'hermine. Celle-ci ne portait pas dans ses bras le petit mammifère qui l'a rendue célèbre. C'est ce qu'a révélé l'analyse spectrale du tableau via une technologie d'imagerie baptisée LAM, Layer Amplification Method, ce qui éclaire d'un tout nouveau jour les intentions de Léonard de Vinci. Voici qui démontre l'apport de nouvelles technologies à la compréhension des œuvres d'art. À côté du regard de l'amateur et de l'historien, qui pose traditionnellement sur les chefs-d'œuvre, celui de la science, désormais donne un tout nouvel image et dévoile des secrets qui modifient les perceptions, voire leur authentification. Alors, pour le meilleur, la science est plus ou moins en train de redécrire l'histoire, de réécrire l'histoire de l'art. Alors voilà. Donc, je comprends que nous sommes à quelques secondes, mais est-ce qu'on a une petite brève?
Oui, pour circuit vélo, mais à Montréal cette fois-ci, c'est le circuit de Lormier-Beaubien, le chemin des carrières. Cette piste cyclable sur sentier longe le chemin de fer et vous fera traverser la ville du Mile End jusqu'à Rosemont en passant par la Petite Italie et le plateau Est. Puis, vous pouvez faire un pit stop pour boire un verre de vin au Cicchetti.
Alors, vous voulez un défi sportif de longue haleine? Restez avec nous pour voir aussi ce qui se passe dans les corridors des écoles. Après la pause, on vous revient donc et restez avec nous.
Dans le parc des Buttes Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe. Retombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide. Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça falle. Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien, mais ça soulage. Serment des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver c'est légitime, faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tanguer se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber. C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps. Un coup de pied dans le porte-bagages, la sonnette, bah il dégage. Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les caps des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains.
Oh, j'ai un petit problème avec mon installation musicale. C'était Benabar qui nous chantait Vélo. Désolé, il manquait, en fait, il manque 10 secondes à la chanson.
On était parti pour parler un autre 10 secondes.
C'est ça. Alors, Yvan, au lieu de parler pendant 10 secondes, on va t'inviter à lire.
À lire, hein?
En fait, c'est un défi assez étonnant. Oui. C'est pas un petit défi. En fait.
Non, c'est deux copains qui se sont dit, pourquoi qu'on fait pas ça? Puis je vous raconte. Ça s'appelle « Traverser le Canada à vélo ». Sous la plume de Véronique Champagne dans le Journal de Montréal du 23 mai 2018, puis j'ai ajouté des petites affaires. Juan Manuel Alonso et Luis Nazim, 60 ans, ont donné leur premier coup de pédale à Victoria samedi dernier. Leur objectif, traverser le pays en vélo. Mais ils font sur le bon bord quand même, là, ils viennent de l'ouest, ils ont le vent dans le dos. Un périple qu'entreprennent des dizaines et des dizaines de cyclistes année après année. Ça, on ne m'avait pas parlé de ça. On n'est pas des athlètes, dit d'emblée Louis. On est des cyclistes très, très ordinaires. Ben oui.
Moi, j'y crois pas vraiment. Traverser le Canada, c'est pas ordinaire. Il faut définir le mot ordinaire.
Ben, voilà. J'ai vu leurs photos, puis oui, ils ont l'air de cyclistes ordinaires.
C'est vrai?
Juan éclate de rire.
Ils n'ont pas le kit.
Ah oui, ils ont des kits, mais... Le nouveau retraité de 60 ans en est à sa troisième vraie saison de vélo. Déjà là, on a un indice qu'il vient tout juste d'entamer avec l'arrivée tardive du beau temps. Le spinning, ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas gaspiller les précieux coups de pédale qui me restent dans un gym, dit le résident de Rosemont, mi-sérieux. Plus discipliné, j'ai perdu mon texte.
Plus discipliné, ici.
Non, c'est beau, je l'ai ici.
Bon, on s'excuse.
Oui. Plus discipliné, Louis ne s'étonne pas de la réplique de son ami de longue date. On est deux contraires et ça fonctionne bien comme ça, précise-t-il. Puis pour suivre leur aventure, on peut aller sur une page Facebook qui s'appelle 100 Days Across Canada, 100 jours à travers le Canada, et je suis allé chercher des petits bouts. L'histoire de Juan sur ce site. En 2014, j'ai été diagnostiqué avec la maladie de Ménière. Ça, c'est un trouble qui affecte l'oreille interne et cause des étourdissements sévères, le vertige et un bourdonnement dans les oreilles.
Tiens, ça m'a
dit quelque chose, ça, moi. Je n'avais jamais imaginé que mes années à la retraite seraient entravées par une condition médicale qui risquait de m'imposer des limites ou, pire, m'empêcherait de poursuivre les activités que j'aime tant. Frustré par le manque de succès des médicaments prescrits ainsi que par les résultats décevants des thérapies physiques, j'ai décidé un après-midi de sortir faire un grand tour de vélo. Pour des raisons que même les médecins ne peuvent expliquer, je n'ai souffert d'aucun symptôme associé à ma condition lors de cette randonnée. C'est ainsi que j'ai découvert que la randonnée à vélo me permettait peut-être de retrouver le contrôle et l'équilibre que j'avais perdu. Du côté de Louis maintenant, il nous dit que j'ai toujours affectionné le vélo et j'ai d'ailleurs passé une grande partie de ma jeunesse à pédaler dans les rues de ma ville natale, Buenos Aires. Lors d'un voyage en Amérique du Sud il y a 8 ans, quelques amis d'enfance et moi avons réalisé une randonnée d'une semaine à travers les Andes en vélo de montagne. Cette expérience est avérée révélatrice pour moi. L'excursion en vélo représentait une excellente façon de m'entraîner, l'aventure ainsi qu'une incroyable façon de profiter des paysages. Lorsqu'on est accompagné de personnes qui partagent la même passion, cela se traduit aussi en une camaraderie inestimable. Les deux amis ont fait le tour de la Gaspésie en 2016, sur un coup de tête. À la suite de cette expérience de 14 jours, leur est venu ce projet un peu fou de traverser le Canada en vélo avant d'être trop vieux. Ils viennent d'avoir 60 ans quand même. Il n'est pas question de performance ni même d'exploit d'endurance. Deux amis, un projet de voyage à deux roues, 100 jours devant eux et cette envie de donner un sens plus grand qu'un trip en s'associant à la Fondation des Cèdres qui se dédie à la recherche sur le cancer de la prostate. On est deux hommes et on est suivis, précise Juan, comme si cela relevait de l'évidence. 100% des fonds amassés seront versés à leur cause. Les hommes financent le voyage par leurs propres moyens. Louis a planifié le périple au cours de la dernière année, s'assurant de dresser un itinéraire qui leur serait sécuritaire tout en étant riche en vues et en rencontres intéressantes. On a un parcours de 8600 km en tête, dit le cycliste. L'important, c'est d'éviter les axes routiers trop fréquentés. Tous ceux qui roulent au Canada savent que la route 17 dans l'est du Manitoba et l'ouest de l'Ontario n'est pas un terrain où on se sent bien sur deux roues. Certains la surnomment la route de la mort. Les cyclistes suivront-ils un plan de nutrition? Une logistique rodée au quart de tour? On s'est fait dire qu'on aurait besoin d'environ 4000 calories par jour pour rouler 85 à 100 km. Autant dire qu'on peut manger ce qu'on veut quand on veut, dit Juan, ravi. Ça, c'est le clown des deux. Les deux amis casseront la croûte au restaurant, dormiront en auberge ou en tente selon leur envie. Tout est sur leur vélo, dont le poids avoisine les 75 livres. C'est Louis qui a pesé la monture. Tout le monde peut faire ce que l'on fait, dit Juan. On n'a rien d'extraordinaire, il faut juste aimer ça. C'est supposé être le fun. Alors, je vais suivre leur parcours. Ça s'appelle, l'article s'appelait « Traverser le Canada à vélo » sous la plume de Véronique Champagne dans le Journal de Montréal du 23 mai.
Merci, Yvon. Alors Marie, si je comprends bien, on a le droit de ne pas être sage dans les corridors.
Vous allez être étonnée.
Vous allez vraiment être étonnée.
C'est maintenant que je le sais.
Alors le titre de cet article, c'est « Une trousse de matériel ludique et pédagogique pour aménager des corridors actifs ». C'est un texte de Françoise Ruby, publié sur le site 100degrés.ca. Le 5 février 2018, ça date, mais ça va donner des idées à plein de gens pour l'année prochaine à tout le moins. Des corridors où les élèves sont actifs quelques minutes, plutôt qu'en randonnion. Voilà ce que la toute nouvelle trousse dans les corridors « Moi, je bouge » permet de faire de façon simple et économique. Oh. Les écoles et les enseignants peuvent désormais se procurer un outil clé en main pour orner les corridors de motifs conçus pour inciter les élèves à bouger et à apprendre dans ces espaces disponibles, mais sous-utilisés. Cette trousse, qui contient des autocollants, et un guide d'utilisation est le résultat d'une fructueuse collaboration entre le Réseau du sport étudiant du Québec et... le Réseau du sport étudiant du Québec, section Québec, Chaudière-Appalaches.
Donc RSEQ, hein?
RSEQ, QCA pour Québec, Chaudière-Appalaches. Okay. Et l'organisme albertain Ever Active Schools. Les corridors d'une école sont non seulement des espaces sous-utilisés, mais aussi des endroits où la gestion des groupes d'élèves est souvent difficile, explique Marie-Claude Lemieux, qui est formatrice et responsable des programmes en mode de vie physiquement actif au RSEQ-QCA. Elle poursuit en soulignant qu'au cours des échanges avec les enseignants et les éducateurs en service de garde, les transitions, donc les déplacements des élèves, sont systématiquement mentionnées comme un frein au temps qui pourrait être consacré à faire bouger davantage les élèves. La trousse dans les corridors « Moi, je bouge » offre une solution à ces deux enjeux, dit-elle. Sauter dans les corridors, voyons donc, me direz-vous. Il paraît, et vous l'avez déjà dit d'ailleurs, Il paraît contre-intuitif d'inciter les élèves à bouger de façon dynamique dans les corridors, chaos en vue. Mais il s'agit au contraire d'un bon moyen de canaliser leur énergie. Jouer à la marelle ou faire du droite-gauche en appliquant les mains sur les murs permettent aux élèves de se concentrer sur une tâche motrice pendant laquelle, à leur âge, ils ne sont pas capables de parler en même temps.
Ah.
Et voilà.
Ah là là. Donc, c'est un chaos harmonieux.
Oui, voilà. C'est un outil simple
et
peu coûteux. Accompagné d'un guide d'utilisation de 25 pages, cette trousse coûte 110 $. Elle contient 64 formes autocollantes géométriques, donc des triangles, des carrés, etc., de couleurs différentes, ou 64 qui représentent des pieds et des mains. Ces autocollants sont lisses et recouverts d'une pellicule antidérapante. On peut écrire dessus avec des marqueurs ou des crayons effaçables, précise Madame Lemieux. Par exemple, on peut y inscrire la consonne de la semaine ou des opérations mathématiques. Les mains qu'on applique sur les murs peuvent être déplacées quelquefois et durent plus longtemps que les formes qu'on place au sol. Celles-ci sont fixes une fois appliquées et résistent sans problème à une année d'utilisation. Ces autocollants sont fabriqués par Caméléon, une agence de publicité située à Québec. Cette trousse bien conçue est d'autant plus intéressante qu'elle est le fruit d'une collaboration entre le RSEQ QCA et un autre organisme provincial qui travaille sur les environnements scolaires actifs, Ever Active Schools, en Alberta. Au cours de l'année 2013-2014, nous avions commencé à marquer les corridors avec du ruban de gymnase pour en faire des espaces actifs, explique Marie-Claude Lemieux. Comme l'initiative a suscité beaucoup d'engouement, nous avons décidé de développer un outil plus coloré, plus permanent et facile à utiliser pour les écoles. De prime abord, on pense qu'ils vont crier, s'éparpiller, se désorganiser, mais les corridors deviennent plutôt des espaces ludiques où les élèves sont concentrés sur des tâches qui favorisent leur développement moteur et leurs apprentissages. Pour éviter de réinventer la roue, le RSEQ QCA a d'abord vérifié si un tel outil existait déjà. Bingo! Le réseau Ever Active Schools avait lancé en 2015 l'initiative Don't Walk in the Hallway, basée elle aussi sur le principe du marquage des corridors pour donner davantage d'occasions de bouger aux élèves. Ils utilisaient des formes autocollantes qu'ils faisaient fabriquer en Alberta, dit Madame Lemieux. Nous leur avons proposé de traduire leurs documents en français et de bonifier leurs trousses avec des formes de mains et de pieds, mm-hmm. ainsi qu'avec un volet plus riche sur le plan éducatif. De plus, les deux organismes font des économies d'échelle, car Caméléon est maintenant leur fournisseur commun. Chris Fenlon-McDonald, l'enseignant d'éducation physique albertain à l'origine de la concrétisation de cette idée, souhaite que ce type d'initiative devienne la norme en milieu scolaire. Il rêve également qu'une clause des contrats de construction de toutes les nouvelles écoles force les architectes et les designers à démontrer qu'ils conçoivent des environnements actifs. Note, envoyez ce texte au Lab École.
Mm-hmm.
Le slogan de l'organisme Ever Active Schools chapeaute le guide rédigé par le RSEQ QCA « Des milieux de vie du 21e siècle pour des apprenants du 21e siècle ». Les enseignants et les écoles du Québec semblent inspirés par ce message. Depuis le lancement de la trousse, il y a 5 semaines, donc ça veut dire que comme l'article date de février, ça nous amène au début de l'année 2018, mm-hmm. 59 à ce moment-là avaient déjà trouvé preneur. Et ça, donc, c'était en février dernier. On peut imaginer que c'est exponentiel. Mm-hmm. Pour commander la trousse, la http://rseqqca.com. Voilà. Un texte de Françoise Ruby pertinent que je souhaite dans toutes les écoles.
Oui, merci beaucoup, Marie. Alors, un texte de B. Ray pour la revue Science et Avenir de avril-mai 2018, qui s'intitule « Les végétaux subissent-ils l'influence de la Lune? »
Astrologie pour les végétaux.
C'est ça. Alors voilà un mythe aussi tenace qu'infondé.
Voilà.
Tout d'abord, cette prétendue influence ne peut pas être liée à la luminosité de notre satellite. La lumière du Soleil, que la surface de la Lune réfléchit, est, écoutez bien, 400 000 fois plus faible que celle du Soleil en plein jour, même durant les nuits de pleine Lune. C'est entre 5 à 50 fois trop peu pour enclencher le processus de photomorphogenèse, c'est-à-dire la floraison, la germination, etc. Et 10 000 fois insuffisant pour celui de la photosynthèse. De toute manière, quand les gens parlent d'influence de la Lune, ils se réfèrent à la position de la Lune dans le ciel, pas au fait que sa lumière arrive jusqu'aux plantes, explique Noël Dorion, qui est professeur émérite à Agrocampus Ouest, qui se trouve en France. Notre satellite pourrait-il avoir une influence gravitationnelle alors? Certes, la Lune en exerce une, évidente sur les océans, qui se manifeste par les marées. Pfiou!
Ça, on le savait,
nous rassure, puis c'est vrai. Mais c'est justement parce que ceux-ci sont de taille gigantesque. À l'échelle d'une plante ou d'un arbre, cette force gravitationnelle est totalement négligeable. La Lune ne peut donc en aucun cas faire monter la sève, contrairement à ce que l'on peut lire dans certains manuels de biodynamie, en particulier en viticulture. Se pourrait-il qu'il existe tout de même une influence indirecte? Après tout, les marées rythment la vie en bord de mer et jouent un rôle, entre autres, sur la température de l'atmosphère. On pourrait donc envisager que la Lune impose son cycle à l'évolution des végétaux terrestres. Sauf que la plupart des études qui ont cherché une trace de cet effet n'ont pas réussi à en trouver. Quant aux autres recherches, Noël Dorion les a épluchées en 2012 pour établir avec son collègue Jacques Mouchotte un rapport officiel de la Société nationale d'horticulture de France. Le verdict est sans appel. Les travaux censés prouver cet effet ne sont pas statistiquement fiables. Si la Lune a une influence sur la performance agronomique, elle est infinitissimale, conclut le rapport. Le rôle de la qualité des sols, de l'alimentation hybride, de la température, de l'ensoleillement, du contrôle des ravageurs est immensément plus important que celui du cycle lunaire. Inutile donc de demander à la Lune de vous aider à jardiner. Elle restera sourde comme un pot.
Ça règle notre problème.
C'était donc un petit article de Béré. Je dis B parce que je n'ai pas trouvé le prénom
Bernard, Béatrice.
C'est ça, je ne sais pas. J'ai cependant...
Tu veux d'autres suggestions?
Oui, c'est ça. J'enchaîne en fait sur un autre petit article. J'en avais trois pour cette section. La question qui est posée, certains arbres sont-ils immortels? Alors, on sait qu'ils sont pas... leur croissance n'est pas activée par la Lune, mais peuvent-ils vivre éternellement?
Moi, je gage que non.
Il est vrai que certains arbres semblent immortels, tel le pin Bristol Cone, découvert en 2012 en Californie, qui affiche plus de 5000 ans de vie.
Quand même!
Les arbres ont une particularité. Ils peuvent croître indéfiniment. Cela grâce à leurs cellules méristématiques localisées dans les bourgeons et les extrémités de leurs racines qui sont rajeunies périodiquement. Ainsi, contrairement aux cellules animales dont l'ADN s'encombre au fil du temps d'éléments chimiques gênants, son fonctionnement, ces cellules effacent chaque printemps leurs marques de vieillissement moléculaire. On aimerait tout ça.
Mm-hmm.
Cependant, les pousses déjà formées, elles, vieillissent bien. Par conséquent, les capacités des arbres à cicatriser et à se défendre contre les pathogènes diminuent avec le temps. Chaque année qui passe permet donc à des microbes ou à de l'eau de s'engouffrer plus facilement au niveau d'une blessure, due par exemple à une branche qui casse, et ainsi d'induire le pourrissement, puis la disparition du bois dans le tronc. Alors, même dans des conditions idéales, les arbres finiraient de toute façon par céder sous leur propre poids. Le pin Bristol Cone succombera donc aussi un jour ou l'autre, au ravage du temps.
Mais on risque de pas être là.
On risque de pas être là. C'est un petit texte de Keira Bitaed. Et pour terminer, un arbre, est-ce que ça dort?
Je l'ignore totalement.
Ça, je dirais oui.
Alors, en observant des bouleaux la nuit, au scanner laser et sans lumière artificielle, un chercheur finlandais a remarqué en 2016 que leurs branches s'affaissent en moyenne d'une dizaine de centimètres par rapport au jour. Le cycle circadien du mouvement des plantes est documenté depuis la fin du siècle, mais c'est la première fois que l'on détecte clairement le mouvement des branches d'un arbre. Alors, selon lui, cet affaissement résulterait d'une baisse de la pression en eau dans les cellules végétales liée à l'interruption de la photosynthèse pendant la nuit. Par ailleurs, les arbres connaissent aussi une dormance hivernale. Lorsque les températures chutent, ils interrompent la division cellulaire, ce qui ralentit les activités biologiques, d'où leur allure figée.
C'est fascinant.
Alors voilà, c'était les arbres, la végétation.
Ouais. Oui, oui, oui.
Alors Marie,
une petite brève
importante
qui m'importe beaucoup.
Oui.
Jolie histoire pour un dollar. Ça vaut mieux que toutes les babioles du Dollarama. Samedi et dimanche, donc 2 et 3 juin, 20 000 exemplaires du bel album « L'été de la petite baleine » seront offerts au prix symbolique de 1 $ dans le cadre de la campagne « Lire pour emmiéter le monde »,« Emmiéter pour rendre meilleur ». L'auteur Dominique Demers souhaite ainsi propager le goût de la lecture faite aux enfants. Elle dit « Il suffit de 10 minutes par jour pour changer le monde, 10 minutes de lecture qu'on fait à haute voix aux enfants ». Et elle précise ça dans un communiqué. Les albums seront vendus à l'occasion de la Journée des librairies indépendantes qui aura lieu samedi 2 juin. Tendrement illustré par Gabriel Grimard, l'été de la petite baleine raconte les aventures du petit Gnouf, un adorable personnage qui dit que la mer, c'est trop tellement beau. Et c'est le livre qui sera lu dimanche le 3 juin à 8h et mercredi le 6 juin prochain à 18h30
par
l'émission Marie raconte.
Notre Marie, là. C'est ma voix, Marie.
C'est pas que la voix du Gnouf, c'est la bonne voix.
Voilà. Et j'ajoute, chers auditeurs, qu'on organise un concours sur la page Facebook de Canal M dès aujourd'hui, que les gens qui y participeront courent la chance de gagner un exemplaire autographié de ce livre, « L'été de la petite baleine », et qu'on en parle aujourd'hui à l'émission de Clotilde Seille, des livres pleins les oreilles, à midi. Alors voilà, c'était de l'autopromotion.
Est-ce que c'est autographié par toi ou par
Dominique Domer, c'est par mon humblement moi.
Oh, super! C'est génial.
Oui. On a-tu le droit de participer?
Mais je ne sais pas.
Non, on fait partie de la famille, on peut pas.
On est bénévoles.
Alors, cher ami.
Oui, moi je voulais juste terminer la petite brève sur le sentier de Lorimier-Beaubien à vélo. Vous passerez à côté d'usines et de bâtisses parfois abandonnées et couvertes de graffitis. Ce parcours est idéal pour prendre quelques clichés fabuleux, mais aussi avoir l'impression d'être en voyage à Berlin. Évidemment, vous allez boire un verre de vin au Cicchetti. Là, je vais du parc Jeanne-Mance au parc olympique. Cette piste cyclable qui traverse la ville du plateau jusqu'à Hochelaga est certainement l'une des plus connues de Montréal. Vous pédalerez sur la rue Rachel pendant tout votre parcours, ce qui vous permettra de faire quelques arrêts ici et là, dont une pause bien méritée au parc La Fontaine. Pit stop à faire, la banquise pour une bonne poutine à emporter au parc La Fontaine.
Oui. Oh là là! Alors moi, je vais vous parler de bébé avant 6 mois. Paraît-il que le bébé reconnaît mieux sur sa gauche. Alors les bébés identifient mieux les visages présentés dans leur champ visuel gauche, les fibres nerveuses reliant les deux hémisphères cérébraux étant immatures, le droit, siège de la reconnaissance faciale, ne peut pas encore traiter l'information visuelle perçue par la gauche. Alors, plaçons-nous plutôt vers du côté gauche du bébé avant 6 mois pour qu'ils nous perçoivent.
Pas nécessairement de notre côté gauche à nous.
Non, du bébé.
Du bébé.
C'est la période des examens dans les écoles primaires, secondaires. Alors, pour soutenir correctement nos enfants, Allo Prof Parents propose un dossier formidable. Vraiment, il y a une vidéo promotionnelle qui est sur le site alloprofparents.ca. Allez voir ça, ça vaut la peine.
Alors, à ton tour, Yvan.
Oui, moi, je vous emmène maintenant toujours à vélo sur le circuit Gilles Villeneuve, mais pas en fin de semaine, mais en tout cas, parce qu'il y a des autos, en fait. En partant du Vieux-Port de Montréal jusqu'au circuit Gilles Villeneuve, vous aurez droit à une vue absolument magnifique du fleuve Saint-Laurent. La piste cyclable vous fera même passer près de l'Habitat 67, endroit idéal pour prendre quelques clichés. Le pit stop à faire, profiter du soleil sur la terrasse du bistrot Les Sœurs Grises en savourant une de leurs bières brassées sur place.
Ouh. Wow! Marie, un petit mot d'enfant?
Serpent, selon Maria, qui a 6 ans et demi, la différence avec les vers de terre, c'est qu'il a les yeux qui font des tourbillons pour faire s'endormir les gens.
Oh! Là!
J'aime bien cette conception.
Alors, une petite, petite, minuscule, brève.
Ma dernière randonnée, c'est sur en bordure du canal de la Chine. C'est fantastique. Sur le bord du canal de la Chine, puis vous revenez par le fleuve avec les rapides à la Chine. C'est extraordinaire.
Alors, sur cette belle suggestion, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute.
Merci
à Marie, merci à Yvan, merci à Mathieu. Et puis, écoutez, bonne semaine et au plaisir de vous retrouver jeudi prochain.
Bonne journée.
Bye.
Bonne journée.